Nous voici devant le hall de la salle caveau. Nous entrons dans le hall de la salle caveau. Et voilà. Ici, comme Orphée, on descendait aux enfers pour rejoindre Eurydice. Disons que plus simplement, on va entrer dans la salle d'orchestre de la salle caveau pour assister aux répétitions de l'opéra de Charpentier, la descente d'Orphée aux enfers. Descendons donc aux enfers. Le mythe d'Orphée est de tous les mythes celui qui m'obsède le plus depuis toujours, qui me parle le plus. Ce mythe est extrait des Métamorphoses d'Ovide qui datent de l'an 1 après Jésus-Christ. D'une manière générale, les Métamorphoses d'Ovide envisagent la mort sous toutes les formes possibles. L'idée des Métamorphoses d'Ovide est très belle, c'est que la mort est une métamorphose parmi les autres. C'est une façon d'apprivoiser la mort que je trouve absolument sublime. Le mythe d'Orphée, la version d'Ovide du mythe d'Orphée est une version très naturelle. Orphée est le chanteur, le poète qui vit dans la nature avec les nymphes. Et parmi les nymphes, il y a Eurydice, une nymphe absolument charmante dont Orphée tombe éperdument amoureux et il va l'épouser. Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et voilà que le jour du mariage, Eurydice marche sur une vipère qui la mort, et Eurydice tombe morte aussitôt, avant même que les noces soient consommées. Désespoir absolu d'Orphée, qui ne peut pas accepter cette situation. Non seulement parce qu'il est fou amoureux d'Eurydice, mais parce qu'il trouve ça injuste. Eurydice avait droit à sa vie. Donc Orphée va rencontrer les divinités des enfers, partant du principe que les personnes de la mythologie sont rencontrables, et d'ailleurs il les rencontre, ça se passe très bien. Il convainc tout le monde par l'extraordinaire beauté de son chant. Aussi bien les gardiens des enfers que toutes les créatures de la mythologie entrent en pâmoison absolue. Dès qu'Orphée commence à chanter, il faut imaginer une espèce de chanteur rock d'aujourd'hui face auquel les jeunes filles et les jeunes gens tomberaient en pâmoison. Sauf que là, la salle de concert, c'est pas Bercy, c'est les enfers. Donc Orphée arrive aux enfers, retrouve Eurydice. Alors les divinités des enfers disent à Orphée: vous nous avez convaincus, vous avez le droit de reprendre Eurydice avec vous, à la seule condition que, aussi longtemps que vous n'aurez pas quitté le territoire des enfers, vous ne vous retournerez pas vers elle, sinon vous la perdriez à jamais. Et donc Orphée accepte et repart suivi d'Eurydice. Et là, on ne sait pas très très bien ce qui se passe. Dans un premier temps, tout va très bien. Eurydice, folle d'émotion, suit son Orphée. Et on ne sait pas si c'est parce qu'Orphée est trop pressé de retrouver Eurydice ou c'est parce qu'il n'est pas sûr qu'elle le suive vraiment. Mais il ne peut pas s'empêcher de se retourner sur Eurydice. Et à ce moment-là, la malédiction est consommée. Orphée entonne son dernier chant pour séduire une dernière fois, pour plaire une dernière fois à sa bien-aimée. Et il la perd pour toujours. C'est absolument déchirant.
Épisode 2. Orphée, ce musicien superstar, ou comment l'opéra de Charpentier métamorphose le récit d'Ovide.
C'est monsieur Greenout qui est le chanteur. Ça fait beaucoup d'effet de rencontrer ce chanteur. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte sur scène avec lui ? Pourquoi pas ?
Bonjour, enchantée. Isaline.
Je suis enchantée de vous rencontrer. Je suis Amélie Nothon.
Bonjour, Renate.
Je suis très impressionnée de vous rencontrer. Bonjour.
Bonjour, enchantée, bienvenue dernier.
Je peux poser une bête question. Quel effet ça fait d'interpréter Orphée ?
C'est comme chaque rôle, on essaie de se mettre dans un personnage. Peut-être ce qui est spécial d'Orphée, c'est que la beauté de la voix joue un rôle assez important. Pour moi, la musique qui est juste belle, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ça soit plus que seulement de la belle musique. Et du coup, de mélanger bien les émotions quand même avec une beauté qui va finalement convaincre Pluton de, libérer Eurydice, bah, libérer de la faire revivre.
Oh, c'est donc, extraordinaire. Mais vous êtes conscient que même si vous, ce n'est pas a priori votre intention, peut-être que vous le faites vraiment. Peut-être que vous libérez vraiment une Eurydice de Pluton en faisant ça, à votre insu.
Elle est là.
Ah, ben, oh, je me suis retournée pour la voir.
Le luxe de cette version, c'est-à-dire en fait, donc Orphée doit charmer, enfin voilà, sa voix, son interprétation doit faire, et je crois que c'est peut-être la première fois, alors Charpentier était lui-même Haute-Contre, alors Haute-Contre c'est le type de voix que Reinhard a, mais il ne chantait pas le ténor aigu, ténor à la française, ténor tout ce qu'on aigu, veut. Il chantait le rôle d'Ixion, donc qui n'est pas tenu par Reinhard, qui est tenu par un autre Haute-Contre, mais il connaissait très bien cette voix-là. Là, ici, on a la chance qu'en fait, l'Orphée est aussi le directeur artistique. L'histoire tourne autour de toi et t'as la chance, en plus, de pouvoir modeler. Tu sais ce que je veux dire? Autour
oui,
de toi, ta vision, en fait.
Et je considère ça comme une très grande chance et en même temps, une grande responsabilité. Parce que, de nouveau, on est tous en train de se glisser dans des choses qui existent déjà. Moi, j'ai des idées très claires sur comment je veux que cette œuvre sonne. Et ce qui est intéressant là-dedans, et pour les instrumentistes et pour les chanteurs, c'est que j'essaye de les inspirer, de les pousser, mais il faut toujours être vigilant de ne pas les freiner en même temps.
Une adaptation musicale du mythe d'Orphée, là je ne peux qu'être admiratrice du culot extraordinaire du compositeur. Nous savons tous que Orphée est un musicien qui est sélectionné pour la beauté de son chant, pour aller aux enfers, mais quand on raconte le mythe, on peut se contenter de dire Orphée était un musicien de génie qui conquérait tout le monde par la beauté de son chant. Le musicien, le compositeur, en l'occurrence Marc-Antoine Charpentier, va décider qu'il va endosser la sublimité de ce chant. Il va réellement créer, composer le chant sublime qui va séduire les divinités des enfers. Il faut un sacré culot pour ça. Descendons dans le grand escalier rouge. La loge souterraine, je pense que c'est la définition même des enfers. Encore faut-il que nous la trouvions. À votre avis, c'est par là ou c'est par là? Isaline? 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 Ah, Isaline. Quelle joie de vous voir.
Je dois juste terminer.
Je vous en prie, excusez-moi. Faites comme si nous n'étions pas là.
Voilà, et puis je suis à disposition d'ici.
Là, on est dans, je sais pas, la cave. On est au dernier sous-sol des enfers. Donc là, c'est l'extrême Orphée. Hein. C'est à se demander si on en sortira un jour. Chère Isaline, puis-je vous demander quel est votre rôle dans cet opéra?
Moi, mon rôle chez Vox-Luminis, je suis dramaturge, musicologue.
Qui est Marc-Antoine Charpentier, le compositeur?
Voilà, mais Charpentier, c'est le contemporain de Lully. Ah. Voilà. Donc la pièce a en effet été composée entre 1684 et 86. Mmh. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Orphée, dans la mythologie, c'est quand même la représentation de la puissance de la musique en tant que telle. Donc qu'un compositeur prenne cette thématique, c'est évident quelque part. On parle vraiment de la force, la puissance de la musique sur l'être humain. Et dans le mythe d'Orphée, on retrouve évidemment ce personnage qui arrive dans le monde des ombres, dans le revers de la vie, on va dire. Et tous ceux qui sont dans l'enfer, torturés par la souffrance, reçoivent un moment de répit grâce à la musique. Et là, lui, Orphée, il se rend compte vraiment de cette magie, en fait, de la musique, de cette puissance, en fait, qu'elle a pour adoucir les peines. Alors, il faut savoir que Orphée est le fils de Calliope, qui est la muse de la voix, hein, donc de la belle voix, plus spécifiquement. Et je pense qu'il a hérité de cette voix, il a aussi la lyre, et juste avec ces éléments de base, il arrive à toucher tellement profondément les gens dans leur petit être qu'il arrive à les transformer. Donc, Charpentier, il me semble que c'est évident qu'en tant que compositeur, il veuille démontrer la force de l'outil qu'il utilise, la musique. Ce que je trouve quand même intéressant comme question aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il ne nous a raconté que la première partie de l'histoire ?
Mais oui, bien sûr, voilà. Ça c'est ce qui est le plus intéressant.
Ouais, donc il y a des personnes qui disent qu'il y aurait une partie qui manque à l'opéra. Je pense que l'opéra en tant que tel a sa raison d'être. C'est-à-dire que le titre est aussi la descente d'Orphée aux enfers. Ça veut dire qu'il ne parle pas de la remontée. Hein. Donc il parle d'Orphée qui fait tout ce chemin en direction de l'enfer, qui arrive vraiment à transformer cette ombre en lumière, de la mort jusqu'à la vie. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête avec un désespoir qui devient espoir. Et l'histoire s'arrête là. Et on ne parle pas en fait de toute cette suite de l'histoire, c'est-à-dire d'Eurydice qui poursuit son chemin,
oui.
et lui qui se retourne.
Et comment l'interprétez-vous ?
Pour moi, la signification est claire qu'il veut faire un parallèle sans doute déjà actuel par rapport à l'humanité, tout simplement, de ce lien entre la musique et la souffrance. C'est-à-dire, je pense que c'est très actuel, comment aborder la souffrance, comment est-ce que chacun de nous, on aborde les peines les plus dures. Et comment la musique peut être un outil là-dedans.
Mais oui.
Voilà. Et comment la musique peut aussi transformer et signifier ce catharsis intérieur, quoi.
Et c'est ce qui, pour vous, fait la modernité du mythe d'Orphée.
Oui, et plus spécifiquement de cette version, oui.
Alors moi, je ne sais pas pourquoi l'opéra s'arrête à ce moment-là, mais il est permis d'espérer que déjà au XVIIe siècle, Marc-Antoine Charpentier fasse cette chose extraordinairement moderne. Ce choix d'une fin ouverte, ce choix d'une fin de tous les possibles, ça s'arrête juste avant le désespoir. Vous savez, j'adore cette idée. Chacun peut décider que ça se termine comme ça, que peut-être tout simplement ça se termine pas, que jusqu'à la fin des temps, Eurydice va suivre Orphée dans ce moment d'accomplissement, de rêve où... Après tout, on ne sait pas comment ça va se passer, les retrouvailles d'Orphée et d'Eurydice, ça va peut-être être un drame. Peut-être qu'il va se dire tout à coup, tiens, mais qu'est-ce que je lui trouvais ? Non, c'est encore plus beau si ça s'arrête juste à ce moment-là. Cette fin ouverte est d'une modernité éblouissante.
Vers la scène et je vais. Les musiciens sont en train de faire ce qu'on appelle la prova d'orchestra. Ils essayent leurs instruments, c'est très émouvant. Montons donc. Justement, c'est un musicien qui essaye sa viole et la viole est extraordinairement belle. D'ailleurs, au bout de la volute, il y a un visage de femme qui est sculpté en bois. C'est très ancien. Je n'avais jamais vu un si bel instrument, je te dis. Son instrument et je me souviens que quand j'étais petite, la première fois que je suis allée à un concert et quand les instrumentistes essayaient leurs instruments, les accordaient, C'était la partie du concert que je préférais. Je trouvais ça presque plus beau que la musique. Et ça continue de me fasciner. Et plus loin, il y a une jeune femme qui est en train de baisser un tabouret pour que le tabouret ait juste la bonne hauteur pour l'instrumentiste. Et c'est assez drôle parce qu'il y a l'accordeur qui regarde celui qui accorde la viole. Et on sent qu'il a un regard très attentif et critique. Ils doivent être d'accord tous les deux avec le son. Pour l'instant, il y a des musiciens qui sont en train d'arriver sur scène. Il y a une jeune femme qui lit un livre. Ah, regardez là, le théorbe. Oh, on va voir le théorbe, ça va être extraordinaire. Entre-temps, je trouve que les sons qui sortent de cette viole sont sublimes. Qu'est-ce que c'est beau, pardon, mais on écoute votre instrument, c'est magnifique, magnifique. Mais faites comme si on n'était pas là. Ça fait beaucoup d'effet, là j'ai des frissons. C'est dommage que ce qui est pas d'image parce que on verrait que j'ai la chair de poule. Oh, regardez le théorbe. Oh, que c'est beau. Mais que c'est beau. Je n'ai jamais vu un si bel instrument que le théorbe.
C'est une copie d'un modèle qui est fait à Paris au 1703.
C'est magnifique. Vraiment magnifique. Félicitations. Bonjour, c'est la première fois de ma vie que je vois un théorbe.
Oh, quelle catastrophe!
Je suis super impressionnée.
C'est un très bel instrument.
Magnifique! Oui, oui. Oh, c'est un instrument ancien?
Oui, c'est un instrument vraiment du XVIIe siècle. Oui. Alors, c'est-à-dire... Pardon, je vais juste... C'est-à-dire, c'est un instrument qui a été développé en même temps que la naissance de l'opéra. Alors, quand on a commencé avec l'opéra, vraiment chanter une histoire, raconter une histoire avec juste une voix et une basse, on a développé cet instrument.
Fascinant, absolument oui. Fascinant. Alors, quand on joue du théorbe, on s'appelle théorbiste, théorbienne.
En général, moi, j'ai dit luthiste parce que souvent, la théorbie, je joue aussi les luthes, on joue un peu tous les instruments de la même famille. Alors, c'est plutôt luthiste.
Alors, ici, il y a une autre jeune femme. Bonsoir, mademoiselle.
Bonsoir.
Comment s'appelle votre instrument ?
C'est une viole de gambe.
Une viole de gambe. Oui.
Ouais, voilà.
Excusez mon ignorance, mais que veut dire gambe ?
Gambe, c'est jambe en fait. C'est viol à la gamba, donc c'est viol de jambe.
Et pourquoi cette jambe ?
Et je sais pas pourquoi on n'a pas traduit en français viol de jambe. Ça serait.
C'est un peu scabreux, peut-être, comme expression.
Voilà,
et comment s'appelle-t-on quand on joue de la viole de gambe ?
Alors on s'appelle un violiste ou un gambiste.
Oh, c'est merveilleux.
Voilà.
Bien que vous êtes la première gambiste que je rencontre. Félicitations.
Merci.
Et bon concert.
Merci.
C'est beau de voir les instruments qui dialoguent entre eux, qui trouvent le même langage comme ça.
C'est bien aussi.
C'est fascinant. Fascinant. Voyez comment Orphée, pour vous, c'est quel genre d'homme ?
Comme beaucoup de personnages dans l'opéra, je pense que c'est le côté humain que j'essaye d'en faire sortir. Donc, en fait, de plus possible, de le rapprocher de moi. Il y a le grand moment où Pluton dit « je cède, je me rends », où il se laisse convaincre et laisse partir Eurydice. Et là, dans cette version, c'est la fin, c'est Orphée, il est très content, et bon, Pluton dit quand même, mais pour la regarder, ne te retourne pas jusqu'au moment que vous avez quitté les enfers. Et là, il y a le dernier chœur de l'opéra qui a cette phrase absolument magique. Le bonheur des enfers rendra le ciel jaloux.
Mmh.
Et c'est mis en musique d'une façon absolument extraordinaire. Et ça finit après encore avec les instruments qui font le même thème dans une sarabande, une fin comme ça. Tiens, moi, j'aurais voulu changer le monde, je l'ai dit toujours, mais je ne peux pas. Et donc voilà, je me contente d'être dans la musique et parfois je me dis, bon, est-ce que ça change vraiment ? On change très peu, mais il y a. On peut par-ci, par-là, toucher des gens et faire changer des choses. Et il faut se contenter de peu, mais je me contente de ça. Je pense qu'on peut toucher des gens et que ça peut faire quelque chose.
Vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Je vais vous raconter une histoire personnelle. J'avais 17 ans. Je voulais terriblement mourir, j'allais très 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 mal. Et j'ai entendu une cantatrice belge de l'époque qui s'appelait Marie-Noël de Calataille. Et elle a chanté un lied de Schubert. Et elle m'a tellement bouleversée que j'ai cessé à l'instant d'avoir envie de mourir. Et je n'ai plus eu envie de mourir par la suite. C'est quand même... Alors,
oui, c'est extrêmement fort.
C'est fort. Et bon, alors, c'est vrai, c'est pas politique, mais quand même, si on se dit qu'on sauve la vie de quelqu'un par la beauté d'un chant, c'est colossal.
Bah, dans ça, le mythe d'Orphée est toujours actuel, par exemple, par une histoire comme la vôtre.
Mais je pense que ce genre d'histoire est plus répandu que vous ne le pensez. Soyez certains que vous sauvez des vies en chantant la descente d'Orphée aux enfers, donc vous êtes véritablement Orphée.
Ah, ils sont sur scène à présent. C'est magique d'assister à des moments pareils.
Oh, berger, sans effet, il n'est plus.
Je vais vous faire une confidence, je suis très sensible à ce genre de voix, très, très peu virile finalement, presque transgenre. J'aime bien qu'on ne sache pas très bien si Orphée est situé sexuellement. Après tout, pourquoi Orphée ne serait-il pas une femme qui cherchait un Eurydice?
Continue de nous obséder et de nous bouleverser aujourd'hui parce que ces thèmes sont parfaitement éternels. La mort de l'être aimé, je pense que c'est malheureusement une obsession dont nous ne risquons pas de nous débarrasser avec le temps. Et l'idée que nous pouvons vaincre la mort de l'être aimé, particulièrement par la musique, est terriblement forte. Les musiques peuvent nous mettre en contact avec des êtres aimés perdus ou avec des moments perdus de notre vie. Ça aussi, c'est terriblement fort. C'est plus fort que le souvenir des musiques que nous avions oubliées, que nous entendons au bon moment et qui peuvent nous reconnecter complètement avec un être qui finalement n'est pas perdu.